Gérard Bensoussan, vous êtes né en Algérie, à Mascara. Vous êtes professeur de philosophie à Strasbourg, chercheur au CNRS, traducteur, spécialiste de Schelling, Rosenzweig et Emmanuel Levinas. Vous travaillez actuellement sur la philosophie classique allemande et sur la philosophie juive. Gérard Bensoussan, est-ce que vous pouvez lire à travers votre histoire, un rapport entre vos origines, née en Algérie, juif, et votre parcours en philosophie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se connecte?
Il y a certainement quelque chose qui est déterminé par les origines, par l'histoire personnelle, mon parcours à la fois politique, intellectuel, philosophique, et à coup sûr marqué par ces origines juives. Dans un premier temps, le temps de l'adolescence, le temps de l'extrême jeunesse, par un désir très affirmé de rupture avec la tradition juive, d'où le long passage par la pensée de Marx. Et puis à un certain moment, mais sans que ça puisse être déterminé de façon précise, sans que ça relève d'une intention, d'un projet, d'une volonté, à un certain moment, les retrouvailles, je ne sais pas moi-même comment ni pourquoi, mais les retrouvailles avec cette tradition de pensée juive. Donc c'est des retrouvailles qui se font relativement tardivement, c'est-à-dire après avoir longtemps séjourné, en particulier, vous venez de le rappeler, par l'investigation, la recherche, les travaux universitaires sur la philosophie classique allemande, Kant, Hegel, Schelling essentiellement.
Mais comment on va de l'Algérie à Strasbourg? Qu'est-ce qui s'est passé
Ah,
entre l'Algérie et Strasbourg?
ça c'est l'histoire avec une grande H, comme disait Pérec, qui le détermine. C'est-à-dire que quand j'avais 13 ans, l'Algérie a accédé à son indépendance. Et les populations européennes ont dû quitter le pays, ce qui était un déchirement particulier pour la population juive qui avait de très très anciennes racines en Afrique du Nord, alors que les populations européennes, françaises en particulier, sont arrivées dans le pays au moment de la colonisation, vers le milieu du 19e siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui relève d'un non-choix absolu, c'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, je suis arrivé en France. Je vous parlais tout à l'heure de ces racines juives et de leur importance, même si c'est une importance insue ou inconsciente dans ma trajectoire. Quand je suis arrivé en France, ça je m'en souviens très très bien, j'ai eu le sentiment profond, un peu violent, d'être désormais désassigné de ses origines. C'est-à-dire que la société coloniale algérienne, c'est une société très cloisonnée, l'organisation était communautaire. Chaque communauté était assignée à ses propres origines. Il y avait, pour dire les choses comme on le disait à l'époque, les Juifs, les Arabes, les Européens. Or, une fois arrivé en France, au lycée par exemple, j'avais l'impression que mes camarades de classe se souciaient assez peu de mes origines. C'est curieux parce que c'est une expérience très douloureuse pour ma famille, pour l'ensemble des pieds noirs, comme on disait, pas simplement des juifs d'Algérie. Et ça m'a procuré quelque chose comme un sentiment de liberté.
Un sentiment de liberté, une
Oui.
libération?
Quelque chose comme ça. C'était, je n'étais
Un
plus tenu
affranchissement?
de me déterminer comme juif.
Et est-ce que cela a été à l'origine de votre vocation pour la philosophie? Comment elle est venue?
Certainement, certainement. Si votre question c'est comment je suis venu à la philosophie, ça j'ai une réponse précise parce que je m'en souviens. Et je me souviens avoir lu, quand j'étais peut-être en troisième ou en seconde, avoir ouvert et avoir tenté de lire l'Éthique de Spinoza. Et je n'y ai rien compris. D'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal avec un certain nombre de passages de ce texte. Et je me suis fixé comme but, dans la vie pratiquement, de comprendre l'éthique de Spinoza. Et si, je crois que si j'ai fait de la philosophie, c'est parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que je comprenne, que je clarifie ce qu'il y avait dans ce livre-là, et d'autres ensuite. Hein, en terminale, je me suis mis à lire Hegel, d'autres philosophes, qui me semblaient d'une obscurité, d'une opacité telle qu'elle demandait à être précisément éclairée. Donc j'ai fait de la philosophie pour comprendre ces quelques ouvrages.
Comment l'effort de compréhension a-t-il un lien avec ce sentiment de liberté et de libération dont vous nous avez parlé tout à l'heure?
Ça, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée, mais je pense que la philosophie et la République française, disons les choses comme ça, ont joué l'une et l'autre un rôle émancipateur, comme si par la philosophie et par la désaffiliation par rapport à l'enracinement juif, dans ce double mouvement, il y avait quelque chose comme un affranchissement, une émancipation, une possibilité de liberté, qui est passée donc d'abord par une rupture philosophique et politique avec le judaïsme.
Et pourquoi ces penseurs allemands, ces philosophes allemands, comment est-ce que vous les avez rencontrés? Je vous répète un peu
Oui.
les grands spécialistes, les grands auteurs dont vous êtes spécialiste, Schelling, Rosenzweig, et Emmanuel Lévinas.
Les trois noms que vous citez s'échelonneraient comme ça sur quelques dizaines d'années. Ces trois auteurs, je les ai rencontrés relativement tardivement, c'est-à-dire après que ma formation académique m'eut porté sur les grands textes de la philosophie allemande, Kant et Hegel. Schelling, c'est un philosophe qui se démarque par rapport à cette tradition. Et c'est un philosophe, je le dis, puisque nous sommes ici à Radio Vatican, c'est un philosophe qui a tenté de fonder véritablement une philosophie de la révélation. Donc, et qui a un rapport, alors lui, intime, profond, vivant avec la tradition chrétienne. Rosenzweig, c'est un immense penseur juif, lui-même de provenance idéaliste spéculative. Je me souviens il y a une vingtaine d'années ou même plus, quand je travaillais à la Bibliothèque nationale, je suis tombé sur un collègue qui pensait qu'il y avait deux Franz Rosenzweig. Un spécialiste de Hegel, qui avait écrit des études érudites, qui avait publié des manuscrits, et par ailleurs, un auteur tout à fait obscur d'un ouvrage qui s'appelait L'étoile de la rédemption, à quoi lui-même ne comprenait rien du tout. Il se trouve que c'est le même, c'est-à-dire que c'est aussi une trajectoire qui va d'un parcours académique. Donc si je l'ai rencontré, c'est à partir de la textualité allemande. Ce dans quoi j'ai mes racines philosophiques, c'est le texte allemand, le texte philosophique allemand.
Et puis, il y a Lévinas.
Alors, Lévinas, j'y suis venu par Rosenzweig. Rosenzweig, qui lui-même était un admirateur des âges du monde de Schelling. Et donc, Lévinas, j'y suis venu par Rosenzweig, parce que Lévinas est celui qui a introduit Rosenzweig en France, certainement. Soucieux de lire tout ce qui pouvait me tomber entre les mains sur Rosenzweig, je suis tombé sur les textes de Lévinas. Et je me suis rendu compte que Lévinas n'était pas simplement l'introducteur de Rosenzweig, ou pour moi certainement une des figures majeures de la pensée du XXe siècle.
On parlait tout à l'heure des enchaînements dans la vie de Rosenzweig et Schelling, puis Lévinas. Vous disiez vous-même, Gérard Bensoussan, qu'il y a des enchaînements dans votre propre parcours. Et vous enseignez un cours qui s'appelle « Le temps, les temps et la temporalité ». Est-ce que votre propre parcours aussi vous aide à comprendre ce que ces penseurs disent sur le temps ?
Vous avez mis le doigt sur un nerf sensible, parce qu'en effet, c'est cette question du temps. Il se trouve qu'elle se tient au croisement, très précisément au croisement, entre deux traditions hétérogènes qui ne se rencontrent pas et qui sont l'une et l'autre profondément interrogatives sur cette question du temps. La première, c'est la tradition philosophique. La question du temps, elle est posée par Platon, elle est posée par Aristote. Elle a progressivement accédé au statut de question classique de la philosophie. Et puis, d'un autre côté, la question du temps s'est posée, il suffit d'ouvrir une page du texte biblique pour se rendre compte que cette question du temps, de la venue des temps, de la fin des temps, se pose vraiment à chaque page.
Hein. Tout le temps.
Tout le temps. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de mobiliser, pour questionner cette tradition philosophique elle-même, de mobiliser l'autre tradition. La tradition, alors appelons-la biblico-hébraïque. On a parlé de Schelling. Schelling, c'est un penseur qui lui-même a été très interpellé par l'autre tradition. Il connaissait un petit peu l'hébreu, il manipulait l'Ancien Testament, et dans ce grand texte qui s'appelle « Les âges du monde », et cette question du temps a donné lieu à ce grand chantier des âges du monde, pour ma part. Ce que j'ai rencontré essentiellement, c'est la question du messianisme juif. C'est-à-dire le temps, même phénoménologiquement ou existentiellement, si vous voulez, comme tramé, comme tissé d'une attente. Et le livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Le temps messianique, temps historique et temps vécu », au fond, si on devait le résumer d'un mot comme ça, mais ce serait de dire que toute l'expérience humaine de la temporalité est une expérience de l'attente. Alors pas forcément, bien sûr, de l'attente du Messie, mais à mon avis, on ne peut pas penser le temps humain, si on ne le pense pas comme tramé, tissé d'une attente continue.
Gérard Bensoussan, pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs, vous qui êtes spécialiste de ces penseurs, quelle perspective, en très peu de mots, vous inspire ces auteurs à partir de votre propre lecture ?
Par exemple, j'ai eu une discussion avec un certain nombre de mes collègues face aux attentats terribles qui ont endeuillé la France l'été dernier. Et je pense qu'il y a le risque d'une sorte d'angélisme qui consiste à dépouiller les criminels de leur propre responsabilité en soulignant qu'il faut s'en prendre à nous-mêmes, que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive, en convoquant toute une série de causes qui sont des causes réelles, hein, les guerres d'ingérence dans le monde arabe, la misère sociale des banlieues, etc. Je pense qu'il y a justement une confusion entre les deux registres. Dans le registre du face-à-face,
fût-ce avec un terroriste. Il y a des choses qui se passent que je ne peux pas, sous peine de désastre, que je ne peux pas transposer tel quel dans le registre politique. Dans le registre politique, j'ai le droit de dire non, je ne suis pas responsable de ces crimes. C'est vous, les criminels, qui êtes responsables de ces crimes. Et en même temps, dans le face-à-face, c'est la question du pardon. Je peux pardonner à qui m'a offensé. Dans le face-à-face. Je ne peux pas faire de ce pardon des offenses un principe du politique. Pour conclure, je dirais cette chose-là. Être attentif à la fois à ce qui est requis dans le face-à-face, en particulier le pardon, et ce qui est d'un tout autre ordre et qui est exigé par l'organisation politique, la justice des hommes.
Merci Gérard Benfoussan.
Je vous remercie.